Bonsoir mes bien-aimés frères et sœurs. Vous êtes en forme?
Oui.
Prêts à recevoir l'enseignement du Seigneur? Prêts pour 45 minutes d'enseignement passionné et passionnant? Amen. Le thème de ce soir, l'art de la communication et de l'écoute. Le mariage, on l'a vu, a été créé par Dieu pour unir l'homme et la femme. Et qu'à travers cette union, Dieu soit glorifié. Notre mariage est à la gloire de Dieu. Amen. Il est écrit dans Éphésiens 5, 25, « Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église. » De la même manière que Christ a aimé l'Église, nous sommes appelés à aimer nos femmes. Normalement, c'était prévu que les femmes auraient dû dire « Waouh !»
Amen.
Et s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier par la parole, après l'avoir purifiée par le baptême d'eau, afin, voilà le but, afin de faire paraître devant lui cette église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et répréhensible. On voit le mariage dans un but plus grand, dans un but spirituel, hein, où le mariage va nous aider dans cette croissance spirituelle à grandir comme Dieu nous demande de grandir. À l'image de Christ qui s'est donné pour son église, moi aussi, je me donne pour mon mariage. Amen. Ainsi, je ne me sers pas de mon mariage, mais je sers mon mariage. Ainsi, je ne me sers pas de mon conjoint, mais je sers mon conjoint. C'est les bases bibliques qu'on a vues, où quand on rentre dans le mariage, ce n'est pas pour profiter de l'autre, mais au contraire, c'est pour apporter à l'autre. C'est une conception biblique. Si on prend le mariage dans le monde, on s'aperçoit que chacun rentre dans le mariage avec une idée derrière la tête, c'est qu'est-ce que l'autre va pouvoir m'apporter. Mais dans le mariage biblique, on n'a pas cette conception-là. À l'image de Christ qui s'est donné pour son Église, à l'image de Christ qui s'est donné pour chacun d'entre nous, nous sommes appelés à nous donner pour l'autre, à nous donner pour notre mariage. Et ça change complètement l'avenir de notre mariage. La méconnaissance du fonctionnement du mariage, tel que Dieu l'a voulu, a voulu le fonctionnement du mariage, mais on a une méconnaissance, cela a conduit bien souvent celui-ci, au bout de quelques années, à une forme de cohabitation. Si on ne regarde pas ce que Dieu nous demande dans le mariage, alors on n'aura pas le mariage, d'une part, que Dieu voulait qu'on ait, et nous serons déçus de ce mariage-là. Et le plus grand risque qu'il peut y avoir, c'est que ce mariage, tout doucement, passe dans un mariage de cohabitation. C'est quoi un mariage de cohabitation? C'est un mariage où on est ensemble. Il n'y a pas de problème, on est sous le même toit. On peut même coucher dans la même chambre, il n'y a pas de problème. Mais seulement, on n'est plus unis comme Dieu le veut dans le sens du mariage. Et on reste ensemble, mais parce qu'on a des intérêts communs qui n'ont rien à voir avec l'amour comme Dieu l'a imaginé pour nous. C'est-à-dire qu'on a sans doute la maison en commun, on peut avoir les enfants en commun, on peut avoir des choses en commun. Et donc on s'habitue petit à petit à une forme de cohabitation. Et ce n'est pas le mariage que Dieu a voulu pour chacun d'entre nous. Cette cohabitation découle plutôt d'une forme de fatalité, avec seulement comme résultant nos habitudes et nos intérêts en commun. Et donc on se bat contre ça parce qu'on n'a pas envie que nos mariages ressemblent à ça. On a envie de rester amoureux et que le mariage se bonifie au fil du temps. Et qu'on soit de mieux en mieux, qu'on soit meilleur encore. Dans le psaume 127, il est écrit ceci, « Si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. » On bâtit notre mariage sur la parole de Dieu. Le mariage, pour qu'il soit dans la volonté de Dieu, est appelé à être une véritable union qui va nécessiter, on l'a vu mardi, qui va nécessiter de la part des conjoints un engagement, un investissement, un effort, un travail sur soi. Pas un travail sur l'autre, mais un travail sur nous-mêmes. Et on a vu cette référence biblique avec ce verset où Jésus nous dit que arrête de regarder dans l'œil de l'autre. Parce que dans l'œil de l'autre, il y a une paille. Mais toi, tu as une poutre. Et elle est tellement grosse, ta poutre, que tu n'arrives pas à voir ce qu'il y a dans l'œil du voisin véritablement. Donc enlève d'abord ta poutre Après, tu pourras peut-être dire à ton voisin, attends, il y a une petite paille là qui te gêne. Mais en attendant, c'est sur nous qu'on doit travailler. Pourquoi ? Ben parce que malheureusement, le péché nous a tous atteints d'une manière ou d'une autre. Et que donc, forcément, il y a ce qu'on appelle en nous des dysfonctionnements, des défauts, des choses qui ne vont pas. Et donc, on a besoin de travailler petit à petit par la grâce de Dieu. Et j'aime rappeler ce verset d'Éphésiens 3:20 qui nous dit « par la puissance de celui qui habite en toi et qui fait à travers toi ». Et donc, on a cette vision d'être disciple, de grandir comme un disciple et de sans cesse chercher à grandir. Et c'est ce qu'on appelle bibliquement la sainteté. La sainteté, c'est grandir dans les voies de Dieu. Et quand on vient à Dieu, on est un bébé spirituel et on n'est pas appelé à rester un bébé spirituel. On est appelé à grandir. Et le mariage va aussi servir de on va dire, pas de prétexte, mais il va servir aussi de cadre dans lequel, justement, on va pouvoir voir si on grandit, si on se sanctifie, si on est meilleur qu'au début. Et c'est pour ça qu'on parle d'un mariage qui se bonifie parce que les deux acteurs se bonifient à travers la croissance spirituelle. Amen. Et donc, on a vu aussi, très important dans la définition de l'amour, le don de soi envers l'autre. Je me donne à toi et l'autre se donne à moi. Et c'est cette dynamique, ce mariage, cette dynamique qui va faire que le mariage est quelque chose d'exceptionnel et quelque chose qu'on ne peut pas retrouver ailleurs. C'est la cellule de deux personnes où il y a la plus forte intimité et l'occasion de grandir ensemble. Dans le mariage biblique, ma volonté, ce n'est pas ma satisfaction, mais c'est celle de mon conjoint. Et ça ne veut pas dire que moi, je m'oublie, puisque l'autre va chercher ma satisfaction. Mais ce n'est pas moi qui cherche ma satisfaction. C'est l'autre qui va me rendre heureux et que moi, je vais la rendre heureuse. Et ça donne du sens à notre union. Ça donne du sens à notre mariage. Il ne faudra pas perdre de vue toutes ces années-là que moi, je suis là pour toi. Et toi, tu es là pour moi. Et à partir du moment où on est dans cette dynamique-là, mais notre mariage aura toujours du sens. Je saurai toujours pourquoi je suis avec ma chérie. Et elle saura aussi. Et si on perd de vue ça, inévitablement, il y a un moment où on se posera la question, mais qu'est-ce qu'on fait ensemble? Pourquoi on est encore ensemble? Quel est le but? Pourquoi on s'est marié en fait? Et ça sera une catastrophe. Et c'est là qu'on risque de dévier vers une cohabitation ou un divorce. Qu'est-ce que je peux apporter à mon conjoint dans notre mariage? Voilà la question que chaque enfant de Dieu qui se marie devrait pouvoir se poser. Est-ce que je suis véritablement un plus pour mon conjoint, pour mes enfants, pour ma famille? Et l'ennemi du mariage, c'est vraiment l'égoïsme. Et je dis souvent à quelqu'un qui est égoïste et qui le sait et qui n'est pas prêt à faire les efforts et à laisser Dieu le transformer, je dis, mais si vraiment c'est ça ta situation et ton caractère, et que tu ne veux pas laisser Dieu te transformer, alors te marie pas. Te marie pas, parce que tu vas rendre l'autre malheureuse et tu seras malheureux. L'ennemi du mariage, c'est l'égoïsme. Parce que le mariage, c'est le don de soi. Et vous savez ce que Jésus a dit? Il y a plus de plaisir à donner qu'à recevoir. Maintenant, je peux comprendre qu'à travers ce qu'on a vu mardi sur les fondements du mariage, beaucoup vont peut-être dire « Ben moi, je n'ai pas été enseigné comme ça, et franchement, ben, c'est compliqué. Comment repartir sur des nouvelles bases ?» Et donc, j'aimerais, ces 4-5 strophes, j'aimerais penser à tous ces frères et sœurs ben, qui ont plusieurs années de mariage, qui sont peut-être partis sur des mauvaises rails, et qui voudraient ben, repartir sur des bons rails, parce qu'avec Dieu, tout est possible. Rien n'est perdu. Alors on va voir 4-5 styles que je répéterai plusieurs fois dans les enseignements pour bien comprendre qu'il suffit que les deux soient d'accord pour se redonner une vraie chance et repartir sur des bons rails pour que le couple ressuscite. Il n'y a jamais de fin avec le Seigneur. Dieu est le Dieu du miracle, il est le Dieu de la résurrection. Alors premièrement, reformuler son engagement. Nous sommes appelés à nous donner l'un à l'autre je ne suis plus ma priorité, mais à partir d'aujourd'hui, ma priorité, c'est toi. Première chose, c'est comme si on renouvelait nos vœux, des vœux conscients, qu'on réalise. On n'est pas seulement devant Monsieur le maire, on est devant le Seigneur. Et on dit, Seigneur, à partir d'aujourd'hui, je veux que mon conjoint soit ma priorité. Deuxièmement, il va falloir entrer dans le processus de pardon. Pourquoi ? Parce que à travers toutes ces années où on n'a pas bien su mener la barque, eh ben on s'est blessé. On s'est fait mal. Il y a de l'irritation, il y a des blessures, il y a des frustrations. Il y a un tas de choses qu'il va falloir amener à la lumière et demander pardon et aussi pardonner. C'est un travail inévitable pour pouvoir repartir sur des bonnes bases. Chacun est appelé à s'excuser et à demander pardon pour ce comportement et ses paroles. Ensuite, et ça on le verra mardi prochain, on verra ce que c'est que le cœur à cœur et mettre en priorité le cœur à cœur. Le cœur à cœur, c'est connaître de mieux en mieux l'autre, de connaître ce qui se passe à l'intérieur de l'autre, ses soucis, ses failles, ce qu'il a vécu dans son enfance, là où il a besoin d'être accompagné avec beaucoup d'amour, de tendresse, d'affection, de douceur. Toutes ces choses-là qu'on exprime dans une certaine intimité. Ça ne peut se passer que dans un cœur à cœur. Et malheureusement, parce que les gens ne sont pas enseignés, beaucoup de personnes qui avaient un cœur à cœur au début, quand ils étaient dans les fiançailles, quand ils étaient au début, qu'il n'y avait pas encore d'enfants, ils passaient du temps ensemble et ils arrivaient à se parler. Mais avec le temps faisant, les enfants, le travail, tout l'activisme que j'ai parlé mardi, et bien petit à petit, ce temps de cœur à cœur n'existe plus. Parce qu'il a fait part aux enfants, le temps pour les enfants, il a fait part au temps de la famille. Mais il y a une chose fondamentale que vous devez comprendre. Le couple, c'est une entité à part. Le couple ne se noie pas dans la famille. Il existe et il est appelé à vivre. Parce que si le couple s'effondre, c'est la base. C'est toute la famille qui s'effondre. Et donc il est important de coûte que coûte. Et c'est un combat, on le verra mardi, on va passer une heure ou trois quarts d'heure là-dessus. On va comprendre que c'est compliqué, mais il faut résister. Et il faut se garder du temps. Si vous devenez un couple épanoui, heureux, jusqu'à la fin de votre vie, c'est parce que vous aurez su préserver du temps pour votre couple. Tout n'est pas consacré au travail. Tout n'est pas consacré à la famille. Mais il y a une partie que l'on ne peut pas prendre, que l'on ne peut pas voler. Ah, c'est le couple. On ne peut pas voler ça. C'est une question de vie ou de mort pour le couple. C'est comme une plante. C'est comme une plante que l'on arrose, le couple, avec de l'amour. C'est comme une plante. Si vous cessez de l'arroser, elle va mourir. Et à ce moment-là, ça va se noyer dans la famille. Et c'est la famille qui va prendre toute la place. Et quand les enfants vont partir, quand les enfants vont s'envoler du nid, vous resterez tous les deux, mais vous n'aurez pas su entretenir l'essentiel. Et beaucoup de divorces ont lieu quand les enfants se sont envolés, parce qu'il ne reste plus que deux étrangers à la maison. Donc on verra ça mardi, combien c'est important de remettre en place un cœur à cœur. Ensuite, c'est un engagement à valoriser l'autre. Pourquoi ? Parce que quand on s'est marié, figurez-vous que vous avez trouvé des qualités chez votre conjoint. Et vaut mieux que vous me dites oui, parce que sinon c'est dangereux pour vous. Donc vous avez trouvé des qualités chez votre conjoint quand vous l'avez trouvé. Et au fur et à mesure, à cause des déceptions, à cause des frustrations, à cause des choses qu'on attendait et puis qui ne sont pas venues, ce qu'on appelle des attentes irréalistes, eh bien, petit à petit, il y a de la frustration qui est arrivée. Petit à petit, on a vu chez l'autre des choses qu'on ne pensait pas voir. Hein. Et petit à petit, eh bien, malheureusement, il y a eu de l'amertume, il y a eu de l'aigreur. Et ça, vous savez ce que ça fait ? Quand on est avec quelqu'un, tous les jours, on finit par voir ses défauts. C'est normal. La seule personne qui pourrait échapper à la règle, c'est Jésus. Plus on s'approche de Jésus, plus on le trouve extraordinaire. Mais d'un être humain, plus vous allez vous approcher de lui, plus vous allez voir des défauts. C'est logique. Seulement, les qualités n'ont pas disparu. Mais, dans notre fonctionnement, on va arrêter de le valoriser. Vous savez pourquoi ? Parce qu'il ne mérite pas. Il ne mérite pas. Il est trop méchant. Il faudrait en plus que je le valorise. Et certainement pas. Donc petit à petit, on ne valorise plus l'autre. Et petit à petit, eh ben, l'amour se tue là-dedans. C'est du tue-l'amour que de dévaloriser toujours l'autre. C'est comme si, regardez un petit peu le ridicule de la situation. C'est comme si vous rencontrez votre bien-aimé, vous êtes sur le chemin, on va se marier, tout ça va être génial. Et tu sais, chérie, tous les jours, on va passer notre temps à se dénigrer. Tous les jours, moi, je vais te dire tous tes défauts. Ça va être génial, hein? On continue à se marier? Regarde un petit peu le truc. Vous dites ça, vous partez en courant, vite fait, bien fait. Et pourtant, si vous réalisez ce qui se passe dans la plupart des couples, les couples se dévalorisent. Tellement plus facile de regarder ce qui ne va pas chez l'autre, plutôt que de regarder ce qui ne va pas chez nous. Et combien c'est difficile pour valoriser l'autre. Les choses se font, c'est automatique. J'ai fait ci, j'ai fait ça, mais oui, c'est bien, mais c'est ton boulot, c'est tout normal. Est-ce qu'il n'y aurait pas un petit « Waouh, merci chérie pour ce que tu as fait. » On rentre dans une certaine habitude, mauvaise habitude, et donc il n'y a plus de valorisation. On a l'impression qu'on ne compte plus pour l'autre. Ou en tout cas, on est là, mais les compliments se font rares. C'est souvent de l'extérieur que les compliments vont venir. Et donc, il y a de la frustration. Donc, apprendre à valoriser l'autre, je m'engage à mettre en premier tes qualités, à prier avec toi pour les choses qui sont appelées à changer. Bien sûr qu'on a tous des choses à changer, mais il faut qu'on prie ensemble pour l'autre. Qu'est-ce que tu veux? Pourquoi tu veux prier? Compris. Le sujet de nos prières. Ça, c'est bien. D'accord? Mais sans arrêt, dire à l'autre tout ce qui ne va pas. En omettant tout ce qui va, vous êtes sûr que vous êtes sur le bon chemin pour cohabiter. Si vous divorcez pas. Donc, il y a des mauvaises habitudes à changer. Et enfin, j'ai mis à la bibliothèque des feuilles A4, c'est des tableaux. Hein, c'est pour vous donner un exemple. Comment on repart en mettant les choses à plat? Eh bien, c'est de connaître les besoins de l'autre et les solutions qu'on peut lui apporter. Mes besoins et les solutions que je vois. Et la femme, ses besoins et les solutions à mettre en place. C'est du concret, c'est du pratique, mais c'est pour repartir dans le sens du mariage et redonner du sens au mariage. Répondre aux besoins de l'autre. Si on n'a pas entretenu le cœur à cœur, si on n'a pas entretenu une intimité dans notre relation, je ne connais même plus les besoins de mon épouse. Et en tout cas, les besoins qu'on a quand on se marie à 20 ans et les besoins à 30 ans, les besoins à 40 ans, ce ne sont pas les mêmes. Ils ont évolué. Donc on a besoin de se poser et dire « Chérie, tu remplis ce tableau-là, je remplis le mien et on échange nos feuilles. » Et on regarde un petit peu. Et vous allez voir que vous allez découvrir des choses incroyables. Vous allez dire, mais je ne comprends pas, j'avais jamais vu ce genre de besoin. Et ils sont là. Il y a une partie des besoins humains que l'homme ou la femme peuvent remplir. Et puis il y a une partie des besoins qui ne peuvent être remplis que par le Seigneur. Amen,
Amen.
Donc ça, je le répéterai de temps en temps pour ceux qui se disent, ouais, mais ça, c'est trop tard pour moi. Ça, on aurait dû m'apprendre ça au début de mon mariage. Non, ça serait un faux prétexte. Tout est possible. C'est qu'une question de volonté et de courage. Volonté et courage. Amen.
Bien.
La communication, un art indispensable qui doit être rendu efficace en évitant les obstacles et en appliquant des principes efficaces. Voilà le thème de ce soir et qui découle, je dirais, de ce qu'on a vu mardi. À partir du moment où on est sur les bons fondements, à partir du moment où notre désir, c'est que notre couple fonctionne, que notre couple soit épanoui et que je rende l'autre heureux, heureuse, alors vous allez voir que la communication, elle se présente d'une manière différente de ce que l'on voit d'habitude. Mais elle découle de ce travail que l'on va faire sur soi. Si la caractéristique des fondements du mariage qu'on a vu mardi, c'est le travail sur soi. Le travail sur soi. Eh bien, celle d'aujourd'hui, de la communication, c'est la patience et la douceur. C'est bon, hein? La patience et la douceur. Patience, c'est quelque chose qui n'est pas inné Personne n'est né avec la passion. Mais la passion s'acquiert. C'est un fruit de l'esprit. Et au fur et à mesure que l'on grandit dans le Seigneur, la patience se développe. En tout cas, elle est appelée à se développer. Et la douceur. La douceur, c'est quelque chose qu'on parle presque jamais. Et pourtant, c'est un fruit de l'esprit. Et pourtant, c'est une caractéristique du disciple de Jésus. La douceur. Et ce qui est extraordinaire, c'est que dans la Bible, le Saint-Esprit a mis un point d'honneur à le donner comme caractéristique de Jésus. Jésus était doux et humble de cœur. Waouh ! Quelle caractéristique ! On aurait pu dire, Jésus était fort, Jésus était impressionnant, Jésus... Non, 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 non. Jésus était doux et humble de cœur. Parce que la douceur, c'est une force. Si dans ce monde-là, elle a été assimilée à de la faiblesse, en réalité, être doux, c'est une force. Parce que être doux est un synonyme de maîtrise de soi. L'inverse, c'est la colère. L'inverse, c'est s'emporter. L'inverse, c'est être irritable. Ça, c'est le contraire de la douceur. Mais quelqu'un qui est doux, c'est quelqu'un derrière qui a une bonne assise. Il est sur des bons fondements. Il est sur les fondements de Jésus. Il sait qui il est en Christ. Et donc, il ne s'affole pas pour quoi que ce soit. Il reste doux face à une parole qui viendrait là comme une flèche dans son cœur. Eh bien, il sait que ça fait partie de la vie. Ça fait partie de la nature du péché. Que donc, il n'y a rien de surprenant, de temps en temps, à se prendre une flèche, même de notre conjoint. Mais la douceur, la capacité à rester calme, la douceur à parler calmement. Et comme on est dans la communication, vous allez voir que c'est fondamental de garder cette capacité à ne pas s'énerver, à rester calme. Parce que si dans la communication, au bout de deux phrases, on commence à s'énerver, c'est sûr que la communication va être compliquée. Qu'est-ce que dit la Bible ? Dans Proverbe 15, il est écrit ceci. Une réponse douce calme la fureur. Mais une parole dure excite la colère. On est appelé à manifester de la douceur. Et si tu n'es pas doux, ben le Saint-Esprit va prendre doux. Parce que c'est par la puissance de celui qui agit en toi. Et même si tu as été dans une famille où tu n'as pas été habitué à la douceur, parce que ça criait tout le temps, ça parlait fort, ok, je peux comprendre. Il y a des cultures comme ça compliquées. Mais tu n'es plus appelé à suivre cette tradition qui se faisait dans ta famille. Tu es appelé à avoir les caractéristiques de Jésus. Et donc tu es appelé à être doux. Il faut le rechercher, le fruit de l'esprit. Et c'est Dieu qui travaille en toi. Et Proverbe 15:4, la langue douce, c'est un arbre de vie. Tu veux maintenir la vie dans ton couple ? Tu veux maintenir cette vie Zoé qui coule dans ton couple ? Alors, parle avec douceur. Agis avec douceur. Réfléchis avec douceur. La maîtrise de soi. Le fruit de l'esprit. C'est ça. C'est biblique, c'est le fruit de l'esprit. Et ça se traduit dans notre vie de tous les jours. Si tu me dis que tu es disciple et que tu t'emportes tous les pour un rien, tu es irritable, je dirais, mais c'est bizarre, on dirait qu'il y a ce qu'on appelle une antinomie. Je dirais que c'est marrant, ça ne marche pas ensemble. Être disciple et puis partir au quart de tour. Un petit problème. Sans jugement. L'écoute de l'autre, c'est un acte d'amour. On parle souvent de communication. On dit c'est compliqué la communication dans le couple. Mais on oublie souvent l'écoute. Parce que la communication, ça commence par l'écoute. Et l'écoute, c'est un acte d'amour. Parce qu'on n'est pas, hein, on n'est pas conçu pour écouter l'autre ou les autres. On est conçu pour parler de nous. Et écouter, ça nous énerve. Écouter, c'est notre impatience. Vous savez, il y a une étude, on va le voir tout à l'heure, il y a une étude qui a été faite sur la capacité d'un être humain à écouter quelqu'un. C'est-à-dire combien de temps il arrive à tenir sa langue. 17 secondes. Pas beaucoup, hein. Vous avez intérêt d'aller vite, hein. Il faut qu'en 17 secondes, vous ayez expliqué tout ce que vous avez à dire. Premier principe, la communication dans le couple, elle demande des efforts. Parce que nous sommes différents, avec des besoins différents. On va voir le premier principe, qui est la différence. À force de répéter que les hommes et les femmes étaient égaux, ben, certains ont fini par entendre qu'ils étaient pareils. Ils sont égaux, ils sont pareils. Et tout le monde a fini par admettre cette parité comme une nouvelle vérité. Et là a commencé une grave erreur. Cette époque a marqué le début d'une grande confusion des rôles, des sentiments. Si on pense que les hommes et les femmes sont pareils, alors forcément ils attendent les mêmes choses. C'est ça. Donc moi j'attends ça, ma femme aussi attend ça. Moi je parle comme ça, ma femme aussi elle parle comme ça. On est tous pareils. Alors pourquoi on a tant de mal à se comprendre? Pourquoi? Mais pourquoi elle fait la tête quand j'ai besoin de m'isoler? Bon, enfin, elle devrait comprendre. Pourquoi? Mais quand je n'ai pas envie de parler. Pourquoi elle ne comprend pas? Il faut, on ne peut pas tout le temps parler, et de temps en temps, un peu de calme. Hein? Pourquoi elle fait la tête quand je ne lui donne pas une réponse immédiate? Elle me pose une question, et tout de suite, il faudrait que je donne la réponse. Et ça ne vient pas. Elle serait prête à dire, mais alors, tu as entendu la question? Oui, j'ai entendu, mais attends, il faut que je réfléchisse. C'est bizarre. Moi, j'ai besoin de réfléchir. Mais là, il fallait la réponse de suite. Tu ferais quoi? Tu fais quoi? Ouais, je vais réfléchir. Pourquoi il ne comprend pas quand j'ai besoin qu'il me dise « Je t'aime ». Dis-moi « Je t'aime ». Tous les jours. Tous les jours, « Je t'aime ». Tu ne m'as pas dit « Je t'aime » aujourd'hui? Ah, oui, c'est vrai. Je t'aime. Pourquoi elle ne me croit pas quand je lui dis que je n'ai pas entendu le bébé pleurer cette nuit? Il a pleuré le bébé. Ouais, c'est parce que tu n'as pas envie de pleurer. Non, je t'assure, je n'ai pas entendu le bébé pleurer. Est-ce qu'il pourrait y avoir une petite différence entre la mère et le père à ce niveau-là? Pourquoi il me regarde avec un air supérieur et avec un ton suffisant qui m'énerve quand il me fait passer pour une incapable? Parce que j'arrive pas à trouver la route avec la carte que j'ai entre les mains. Il m'énerve. Longtemps, on a reproché aux hommes et aux femmes de ne pas se parler. Alors, on leur conseillait vivement, faut communiquer. Mais ils se parlent maintenant. Mais seulement, ils ne se comprennent pas. Et leur conversation tourne souvent à la dispute. Donc, si c'est ça, ben, qu'est-ce qui se passe? On arrête de parler. Le problème, on se parle, mais on ne parle pas le même langage. À force de croire qu'on est pareil, qu'on pense pareil, que notre compréhension des choses est la même, alors on a créé beaucoup de malentendus, de quiproquos, rendant compliquée la communication entre les conjoints. Et nous voici enfin arrivés à la fin du siècle dernier. Certains observateurs ont eu la bonne idée de se ressaisir et de mettre tout à plat. Et ils ont pu alors réaffirmer avec force ce que nous avons toujours dit avec évidence au regard de la parole de Dieu. Les hommes et les femmes sont différents. Ils sont différents. Mais ni pire, ni meilleur. Juste différents. Il faut accepter qu'on n'est pas pareil. Et alors à partir de là, qu'est-ce qu'on a observé? On est revenu à comprendre l'homme et la femme et on a déterminé quelques critères. Bien sûr, ce n'est pas exhaustif et bien sûr, c'est général. Il y a toujours des exceptions. Mais on a vu que les hommes ont plutôt une tendance à réprimer leurs sentiments. Contrairement à la femme qui, elle, aime exprimer ses sentiments. Elle n'a pas de problème pour exprimer ses sentiments. Et l'homme a plutôt une tendance à ne pas exprimer ses sentiments, à les intérioriser. Ensuite, on a vu que l'homme avait une tendance à être plutôt compétitif. Il aime gagner, il aime le combat, il faut toujours avoir raison. Et la femme, elle est plutôt coopérative. Le gars est plutôt axé sur le travail. Le travail. Ah oui, mais chérie, il faut bien faire bouillir la marmite. Mais t'es jamais là. Eh oui, mais il faut bien ramener les sous. Un exemple. Et elle, elle est plutôt axée sur la famille. L'homme est plus à l'aise avec la pensée que les sentiments. Il est plutôt rationnel. D'accord ? La femme est plutôt plus à l'aise avec les sentiments que la pensée. C'est-à-dire qu'elle, elle est plutôt dans les émotions. Elle réfléchit beaucoup à travers ce qu'elle ressent, à travers ses émotions. Alors que le gars va se poser. Et puis lui, elle va d'abord réfléchir à faire travailler le cerveau. Il va être moins émotionnel. La tendance, aussi dans l'amour, l'homme a une approche beaucoup plus sexuelle que la femme. La femme a une tendance à être plutôt romantique. Il faut du romantisme. On prend son temps. On n'a pas l'impression d'avoir beaucoup avancé en disant cela. Et pourtant, mais c'est l'essentiel. Parce que la communication, comprendre la communication, elle part de ce constat-là. Nous sommes différents. Ne pense pas forcément que l'autre va comprendre ce que tu dis, va ressentir ce que tu dis, a les mêmes besoins que toi. Et à partir de là, eh ben, il va falloir harmoniser notre communication. Accepter l'idée que l'autre est différent, c'est prendre conscience qu'il ne pense pas comme moi, qu'il n'attend pas la même chose que moi. Et donc qu'il ne peut pas me donner automatiquement ce qui me semble évident pour moi. Dans le romantisme, par exemple, je vais vous raconter une petite anecdote, dans le romantisme, par exemple, la femme va dire, mais je n'ai pas besoin de lui dire, il m'aime. Il va comprendre. Il va le faire. Et puis, il ne se passe rien. Il ne comprend pas. Et là, elle va déduire par rapport à sa façon de penser à elle. Elle va dire, non mais, s'il m'aimait vraiment, bah, il l'aurait fait. Non ! Fallait que tu lui dises. Ah bon ? Eh oui, ça marche comme ça. Tu lui aurais dit, il l'aurait fait. Mais là, il fallait qu'il devine ce que toi, tu penses. C'est trop compliqué pour lui. Tu le surestimes trop. Sois plus terre à terre. T'as besoin de quelque chose ? Demande-lui. Ça sera plus efficace. Que peut-être, il faudrait que je lui demande. Car admettre que l'autre est différent, c'est déjà s'efforcer de le comprendre et de se mettre à sa place. On se retient, par exemple, de conclure trop vite qu'on a en face de nous un indélicat ou une inadaptée. On va d'abord voir. Non, pas trop vite dans les conclusions. On essaie de comprendre comment l'autre fonctionne. Et là, si après tout, mon mari pourrait faire preuve de sensibilité, est-ce que c'est possible ? Commence à se poser des questions. On ne juge pas d'avance et on dit, mais peut-être que, même si c'est un mec, peut-être qu'il pourrait faire preuve de sensibilité. Ou alors, le mec va se dire, et si après tout, est-ce que ce serait possible que ma femme pourrait avoir raison ? Quand même, est-ce que c'est possible ? On commence à se poser des vraies questions. On s'attache à découvrir les origines de ces différences et on peut même se surprendre à y prendre goût, à les apprécier, voire même à ne plus pouvoir s'en passer. Un jour, on s'efforce de désamorcer des conflits avant qu'ils ne s'embrasent. Un autre jour, on critique moins, on complimente plus. Bref, peu à peu, on apprend à vivre ensemble, ce qui est franchement beaucoup plus agréable. Tout le monde est d'accord sur l'importance de la communication dans les relations. Mais il arrive parfois, à force de prendre des mauvaises habitudes, que la communication ne soit plus ce qu'elle devrait être. Au bout de quelques années, on prend des mauvaises habitudes et finalement, c'est les habitudes qui nous dirigent. Et on ne prend plus le temps de se parler. Parce qu'on sait que l'autre va faire ci, on sait que l'autre va faire ça. Donc on est habitué, c'est des routines. Et c'est un témoignage de Georges et Georgette. Georges, il s'arrête à une station service, il n'y a plus d'essence. Quand il s'en va pour faire le plein, puis Georgette, qui est à l'arrière de la voiture, elle en profite pour répondre à un besoin pressant. D'accord ? Mais elle ne prévient pas Georges. Attention, Georges fait son plein, hein, et après il se passe. Le plein terminé, Georges remet les gaz. Vroom ! Sans s'apercevoir que Georgette n'est plus dans la voiture. Et Georges, a fait plus de 100 km sans s'apercevoir que Georgette n'était plus là. Ça fait du temps. Et Georgette ne revient pas. Georgette est stupéfaite. Georgette dit, non mais j'arrivais pas à croire qu'il est parti sans moi. Bon, c'est vrai que je m'assois derrière pour avoir plus de place, mais quand même, pas s'apercevoir que j'étais plus là. Georges s'est rendu compte que son épouse n'était plus dans la voiture seulement en arrivant à la maison. Le couple avait 40 ans de vie commune. La communication est essentielle pour qu'elle puisse déboucher sur une véritable intimité. Si on veut l'intimité dans le couple, ça passe nécessairement par la communication. La seule présence physique d'une personne dans la maison ne suffit pas. Et on peut se sentir vraiment seul quand il n'y a pas de communication. Vous avez des gens qui sont en couple, ils sont là physiquement, mais ils se sentent seuls parce qu'il n'y a pas de communication. C'est seulement lorsqu'une personne nous comprend qu'on se sent vraiment avec elle. Communiquer ne nous rapproche pas seulement physiquement, mais surtout communiquer nous rapproche émotionnellement. Dans un couple, même si les époux vivent sous le même toit et dorment dans le même lit, s'ils ne communiquent pas, ils peuvent devenir des étrangers. Et voici le témoignage d'un mari découvrant le fossé qui s'était creusé au fil des années. Ça n'allait pas bien, il décide d'aller voir un conseiller conjugal. Et là, quand nous sommes allés chez le conseiller conjugal, j'ai constaté avec stupéfaction que nous n'avions en fait jamais communiqué. J'ai entendu mon épouse parler au conseiller de sentiments dont j'ignorais totalement l'existence. Et je me suis entendu faire de même. Nous ne pouvions plus nous parler que par le truchement d'une autre personne. Vous voyez jusqu'où ça peut aller? Et pourtant, ces gens-là vivaient ensemble. En résumé, le premier principe qu'on a vu nous amène à prendre conscience que nous sommes différents. Pas meilleurs, mais pas pires. Et que nous avons besoin, chacun de notre part, toujours travailler sur nous, chacun pour notre part, de faire des efforts pour comprendre l'autre afin de mettre en place une communication authentique. Donc, le premier principe, encore, nous ramène dans une chose fondamentale, tout ne va pas se faire par magie. Il va falloir y mettre du sien. Il va falloir travailler à une bonne communication. Parce que la communication n'est pas automatique. Première chose, apprendre à communiquer. Deuxième principe, c'est l'écoute. Là, encore une fois, si on veut une bonne communication dans le couple, il va falloir apprendre à avoir une bonne écoute. Une bonne écoute va favoriser la communication. À cette question, regardez bien comment c'est important l'écoute. Que ressentez-vous quand vous pensez qu'on vous écoute vraiment? Regardez le sondage. Quand on m'écoute vraiment, voilà ce que je ressens. Je me sens valorisé. Je prends confiance en moi. Je sens que je compte. Je me sens soutenu. Je me sens aimé. Vous voyez la puissance de l'écoute. Les conséquences de l'écoute. Quand vous écoutez votre femme ou que vous écoutez votre mari, voilà ce qui se passe à l'intérieur de la personne. À l'inverse, quand il y a une mauvaise écoute, les réactions sont plutôt du type « je suis frustré ». J'ai l'impression que je ne compte pas, j'ai l'impression qu'on ne m'aime pas, et encore pire, je me sens rejeté. Donc l'écoute est vraiment au centre de la communication d'un couple, la capacité d'écouter l'autre. Nous voyons dans ce deuxième principe l'importance de l'écoute. Le problème qu'on a tous, c'est que l'écoute n'est pas naturelle à l'être humain. Ce n'est pas quelque chose qui est inné chez nous, sinon il n'y aurait pas de problème de communication. Au contraire, ce n'est pas inné chez nous. L'écoute, ça s'apprend. L'écoute demande patience, empathie et beaucoup d'amour. L'écoute, c'est une preuve d'amour. Nous ne comprenons pas toujours ce que l'autre veut nous dire, malgré que nous nous exprimons tous les deux dans la même langue. Parce que nous lui avons dit des choses, alors nous ne posons même pas la question à savoir s'il a bien compris mon propos. On ne se pose pas la question parce qu'on pense que c'est naturel. Or, on voit que ce n'est pas du tout le cas. Souvent, on n'a rien compris, ou il n'a rien compris, ou il a compris en partie, mais pas tout. Ou alors, pire que ça, il ne se souvient même pas que je lui ai dit. Je te l'ai dit.
Ah ouais? Mais quand?
Mais l'autre jour, on a parlé. Je t'ai dit.
Mais non, tu ne l'as jamais dit.
Oh, il ne me croit pas.
Mais t'es sourd comme un pot.
Je te dis quand je te l'ai dit. Des quiproquos qui vont naître parce qu'on croit avoir dit quelque chose, ou on croit que l'autre a compris quelque chose, alors qu'en réalité, ce n'est pas le cas, mais c'est le début des disputes. C'est le début des quiproquos et des malentendus. Et pourtant, bien souvent, ce n'est pas le cas. Ou bien nous n'avons rien compris, ou nous avons compris seulement en partie, ou encore on se souvient même plus que l'autre nous en a parlé, et c'est le début des ennuis. C'est quoi le problème? Ben, il faut être conscient que nous avons des filtres en nous. Et c'est les filtres qui sont différents de l'un de l'autre qui peuvent faire croire que l'autre, il a compris ce que je lui dis. Non, il a des filtres et qui sont différents des tiens. Et c'est pour ça qu'on doit s'assurer que l'autre a bien compris ce que je lui ai dit. Les filtres, c'est nos croyances, nos habitudes familiales, nos expériences passées, nos préjugés, nos différences culturelles, nos centres d'intérêt, notre manque de concentration et notre égoïsme. Tout ça, c'est des filtres qui fait qu'on écoute. On n'est pas là, on fait semblant d'écouter, mais en réalité, je suis en train de penser à autre chose. Donc évidemment, quand elle va me dire « je te l'ai dit », ben, je dis « non, je ne me rappelle pas que tu me l'as dit ». Ben oui, ce jour-là, tu étais en train de penser à autre chose. Mais elle ne le voit pas. Elle croit franchement que tu l'écoutes. Mais tu n'es pas là. Tu es là, mais tu n'es pas là. Conséquence de ces filles, beaucoup d'incompréhension pour celui qui parle, entre ce qu'il croit dire et ce que l'autre comprend réellement, et pour celui qui écoute, entre ce qu'il croit comprendre et ce que l'autre a dit réellement. Combien de fois vous allez comprendre rapidement dans une conversation que finalement, l'autre, c'est pas ce qu'il a dit. Ça va vite, les conversations. Tout d'un coup, vous allez dire, mais tout à l'heure, c'est pas ce que tu as dit. Mais non, tu n'as pas dit ça tout à l'heure. Mais si, tout à l'heure, tu m'as dit ça. Mais non, je t'ai pas dit ça, tu n'as rien compris. Boum, ça y est. Combien de fois ça arrive? On était sûr d'avoir compris, et l'autre était sûr d'avoir exprimé ce qu'il voulait. En fait, les deux n'ont rien compris. Le défi, nous appliquer à écouter ce que l'autre trouve intéressant, mais qui ne fait pas forcément partie de nos centres d'intérêt. C'est pour ça qu'on dit que l'écoute, c'est une preuve d'amour. On dit que l'écoute, c'est de l'amour. Pourquoi? Parce que l'autre va nous dire des choses, franchement, ça ne m'intéresse pas. Mais ça m'intéresse, elle. Je suis dans son centre d'intérêt. Et l'amour va faire en sorte que, même si ce n'est pas mon centre d'intérêt, je vais l'écouter. Oui. Ça. Vous voulez un exemple? Oui. Je vais vous donner l'exemple que je cite à chaque fois. Au début, avec Erlande, je rentrais plus tôt qu'elle, elle rentrait après. Et elle travaillait chez Optique de Bourbon. Donc il y a les clients et puis il y a ceux qui servent avec elle, ses collègues. Et donc le soir, quand elle arrivait, mais moi j'étais affairé à mes affaires, et puis elle arrivait et elle tenait absolument à me raconter ce qui s'est passé dans la journée. Et vous savez, vous imaginez, vous êtes en train de regarder un match de foot ou un truc comme ça, puis elle vient raconter ça. Elle vient. Ah oui, ah bon, ah oui. Attends, bouge pas, attends. Bon. J'ai vite compris qu'elle allait s'énerver, que ça n'allait pas le faire, ça n'allait pas fonctionner. Donc, j'ai changé d'attitude. Donc, j'ai vu que ça faisait partie de ses besoins. C'est ça qu'il faut comprendre, quels sont les besoins de l'autre. Et que moi, je dois m'adapter à ses besoins. Ça, l'amour, c'est du travail, je vous assure, c'est du travail. Donc, alors ce qui est bien... Ce qui est bien, c'est qu'à cette époque-là, ils avaient développé le replay. Hein, vous savez, sur Canal, vous mettez stop, et puis le truc, vous ne perdez rien, ça s'arrête. Alors, elle rentrait, clac, replay. Et puis là, elle avait son dressing dans les mains, les chaussures, le sac et tout. Elle n'avait même pas débarrassé ses affaires. Tellement elle était pressée de me raconter ce qui s'est passé, elle avait encore toutes ses affaires, et elle disait, ah chérie, il faut que je te raconte. Ok. Alors, tu sais ce qui s'est passé aujourd'hui? Je te dis, Carmelita, et elle parlait, et ça durait à peu près 20 minutes, 25 minutes, et après 25 minutes, elle est toujours chargée,
Ah, merci chérie. Ah, tu m'as écouté? Ah, oh, génial. Oh, t'es un super mari. Ah, ben c'est bon pour moi, tu peux y aller. Et elle part. Moi, j'aurais dit, toc. Et j'étais sûr de passer une bonne soirée. Parce qu'elle avait été satisfaite dans ses besoins. Et le soir, elle posait ses affaires et tout ça. Chérie, tu veux quoi ce soir? Je te fais quoi ce soir? Tranquille. Imaginez alors, refaites le film à l'arrière. Elle vient chargée, tout ça. Chérie, faut que je te parle. Ah, excuse-moi, j'ai pas le temps, chérie, je suis en train de regarder un truc qui m'intéresse. On verra plus tard. Frustration, machin. Jamais le temps pour moi. Là, j'aurai pas le droit tout à l'heure quand elle va revenir. Chérie, je te fais quoi ce soir? Non, ça aurait été. Hé, chérie, tu te débrouilles pour ce soir. Hein. Vous voyez un petit peu comment l'écoute est importante. Mais relever ce défi, c'est une démonstration indéniable de l'amour que nous portons à notre conjoint. Écouter, satisfaire les besoins de l'autre en l'écoutant, ça va vous faire marquer des points. Mais beaucoup de points. Votre compte en banque au niveau des points, il va monter comme ça. Nos mauvaises habitudes sont un frein à une écoute active. Ces mauvaises habitudes se traduisent par différents comportements. Comportement du rassureur. Alors ça aussi, c'est des mauvaises habitudes que vous devez prendre conscience si vous vous sentez concerné. Parce que ça n'arrange pas la situation. Comportement du rassureur. La femme est en train de raconter quelque chose. Prenons le cas précis d'une femme, par exemple, qui est dans les émotions. Comprenez, elle n'est pas bien, elle pleure, et puis elle ne comprend pas. Et vous, parce que vous faites marcher le cerveau, donc vous, voilà, vous la rassurez sur un mode rationnel. Mais t'inquiète pas, chérie, tout va s'arranger. T'inquiète pas. Dieu est là, au contrôle. Il n'y a pas de problème. Rassure. Et elle, elle est dans ses émotions. Et en fait, elle n'a pas le temps d'exprimer toutes ses émotions parce que vous n'arrêtez pas de la rassurer. En fait, vous ne l'écoutez pas. Vous n'écoutez pas sa souffrance, ses émotions, mais vous la rassurez. C'est le rassureur. Voyez, le rassureur, c'est un mode rationnel faisant une complète abstraction des émotions de son conjoint. Et chez le conjoint, ce que ça entraîne, ben une frustration chez l'autre qui se sent incompris. Deuxième mauvaise habitude, le donneur de conseils. Alors que le conjoint exprime ce qu'il ressent, l'autre intervient avec des solutions toutes faites comme « Ah, voilà ce que tu devrais faire. Même si j'étais toi, écoute, voilà ce que tu devrais faire. » En fait, il apporte des solutions tout de suite, comme si c'était aussi simple que ça. Alors qu'elle, elle est submergée par les émotions. Donc là encore, il faut apprendre à... Et écoutez, le problème c'est qu'on ne tient pas compte de l'état émotionnel de l'autre et de son fonctionnement. Le timing n'est pas bon. Peut-être qu'il y aura des solutions à apporter tout à l'heure. Mais là, l'heure est à l'empathie. L'heure est à l'empathie. Nous sommes différents. L'autre fonctionne différemment. Et on est appelé à s'adapter à l'autre, à se mettre à sa place. Voilà pourquoi c'est du travail. Voilà pourquoi c'est de l'amour. Le reste, c'est de l'égoïsme. Le reste, c'est de l'égoïsme. C'est de, moi, je ne fonctionne pas comme ça. Moi, je ne suis pas comme toi. Moi, je suis ci. Moi, je suis ça. Non, ça, on ne pourra pas obtenir une bonne communication, une bonne entente dans le couple, une bonne communion dans le couple si on ne fait pas ce travail-là. Vous comprenez? C'est du travail. Eh ouais, on peut toujours se marier, ça vaut le coup. Hein. Une autre mauvaise habitude, le détourneur de situation. Ça aussi, c'est le troisième mauvais comportement. Le conjoint, il est en train de raconter ce qu'il a vécu, et c'est pas facile pour lui de trouver les mots, parce qu'il cherche les mots, il n'a pas l'habitude de s'exprimer, il n'est pas à l'aise, puis il est marqué par ce qui s'est passé. Et tout d'un coup, l'autre prend la parole et se met à raconter une histoire similaire. Vous voyez, du style, ah, ce qui t'est arrivé là, ça me rappelle ce qui m'est arrivé, figure-toi. Mais moi aussi, c'était comme ça, mais c'est pas comme toi. Hein. Moi, tu sais ce qui s'est arrivé ce jour-là? Et terminé. Il est parti raconter son histoire, et l'autre est comme ça. Et moi alors? Ah non, mais c'est mon histoire est plus importante. Hein, tu sais. Voilà. Le détourneur de situation. Toutes ces mauvaises habitudes conduisent au découragement, aux émotions négatives et peuvent tuer la communication. De telles réactions gênent celui qui s'efforce d'exprimer son vécu. Il commence à se renfermer et il va sortir là, dans sa pensée. Il va dire, à quoi bon de discuter? De toute façon, il ne m'écoute pas. Ça parle à quelqu'un, ça? Cette phrase-là, elle parle à quelqu'un. À quoi bon essayer de discuter avec lui? Ça ne sert à rien. De toute façon, il a toujours raison. Et il ne m'écoute pas. Aïe. Pas de coup de coude, s'il vous plaît. Chacun travaille sur soi. L'autre obstacle à une véritable communication, la difficulté pour certains d'exprimer leurs sentiments. Là encore, on va avoir affaire aussi, c'est, l'être humain est très complexe, et alors qu'il faut s'exprimer, alors qu'il faut avoir une bonne communication, alors qu'il faut être capable de raconter à l'autre ce qui se passe en nous, certains vont avoir un handicap parce qu'ils ont du mal à s'exprimer. On les appelle des introvertis, on les appelle des timides, et en fait, ça va être un obstacle à la bonne communication dans le couple. Malgré le fait qu'ils soient aujourd'hui en Christ, malgré que, là on est entre chrétiens, on parle des nouvelles créatures, c'est-à-dire des choses où le passé est passé et que toutes choses sont devenues nouvelles et que par Christ je peux tout. Il va falloir y mettre de la volonté aussi pour ne pas vivre dans le passé. Le passé est passé. Et maintenant toutes choses sont devenues nouvelles. Ils ont encore certaines peurs et même une certaine honte à s'exprimer. Et cela, ça se traduit par de la timidité, par un caractère introverti, une difficulté à mettre des mots sur ce qu'ils ressentent. Des mots M-O-T sur des mots M-A-U-X, pour faire un jeu de mots. C'est classe. Et surtout, ils ont gardé les mauvaises habitudes de leur famille où ils n'exprimaient pas leur situation. Et là, vous allez entendre le genre de réflexion. Mais pourquoi tu ne parles pas? Pourquoi tu ne dis pas ce qui se passe? Parce que la femme, elle sent dans l'émotion, elle est sensible. Elle voit bien que son mari n'est pas comme d'habitude. Donc, elle aimerait l'aider. Et puis ça fait partie du couple. On est ensemble, chérie. Je suis là pour t'aider. Et donc, dis-moi ce qui ne va pas. Et l'autre, incapable de sortir quoi que ce soit. C'est très frustrant pour la femme. C'est très compliqué. Et au bout d'un moment, ce qu'il va dire, tu sais, moi, je n'ai jamais été habitué à parler de mes sentiments. Jamais été habitué à dire ce qui se passe en moi et tout ça. Oui, mais ça, c'était avant. Maintenant, en Christ, tu as besoin, pour la santé de ton couple, pour donner du sens à ton couple, tu as besoin de dépasser ça. Et c'est encore une fois, c'est par la puissance de celui qui agit en toi que tu peux changer. Mais il y a une question de volonté. Il y a une question que quand on est en Christ, cette phrase-là, elle n'existe plus. Ah ben moi, j'étais comme ça, je suis comme ça. Ah ben moi, dans ma famille, c'est comme ça. Oui, dans ta famille. Mais maintenant, tu appartiens à Dieu. Donc maintenant, ça change. Tu ne peux plus te servir de ça comme prétexte. Parce que ça va t'empêcher de travailler sur toi. Tu dis, Seigneur, aide-moi. Aide-moi à parler à ma femme, à être en confiance, à ne pas avoir peur d'être jugé, à ne pas être dans la honte. Seigneur, aide-moi pour la santé de mon couple à ce qu'on soit vraiment un, à ce qu'on soit vraiment uni. Pas le travail, c'est bien. Encore du travail, mais c'est important. Sinon, il n'y aura pas de communication. En tout cas, il n'y aura pas de véritable communication. Et s'il n'y a pas de véritable communication, il n'y a pas de véritable intimité. Et vous ne parviendrez pas à être ce couple comme Dieu le veut. Les pensées qui vont s'entrechoquer dans la tête de cette personne-là, elle va se moquer de moi. Je vais lui donner l'impression d'être faible. Ah, je ne vais pas être compris. Non, puis ça c'est pas moi, ça. Et qu'est-ce qu'elle va penser de moi? Vous voyez, toutes des idées qui font partie de l'ancienne vie. Prendre conscience de nos mauvaises habitudes et transformer nos caractères, c'est partie de notre croissance spirituelle. Le mariage, c'est l'occasion de mettre en pratique et de réaliser le travail du Saint-Esprit en nous. Vous voyez, tout ça, c'est un ensemble. Nous sommes en Christ et notre mariage est en Christ. Tout est en Christ. Vous voyez, donc, il y a le travail du Saint-Esprit qui se fait en nous. Et ça va se voir dans notre mariage. Le disciple de Christ, il mettra un point d'honneur à demander à Dieu de le transformer, afin de répondre de mieux en mieux aux besoins de son conjoint. Là, je devrais avoir un amen de folie. Parce que là, on est appelé à être transformé par le Christ. On est appelé à devenir disciple. Et où ça va se voir en premier, d'après vous? Et c'est dans notre couple. C'est là qu'on va le voir en premier. C'est pas le tout de dire « je suis disciple de Christ ». C'est bien, mais ça demande des actes. Ça demande du concret. Ça demande des preuves d'amour. Comme disait quelqu'un, il n'y a pas d'amour, il n'y a que des preuves d'amour. Et le couple, il se bonifie. Puisque moi, je change, puisque je me transforme par la grâce de Dieu, eh bien, mon mariage, il n'est pas ennuyant. Mon mariage, il a gardé son sens. Et mon mariage, il se bonifie. Au fur et à mesure que moi, je deviens de plus en plus disciple dans la volonté de Dieu, mon mariage en profite. Et si mon mariage en profite, mes enfants en profitent, mon couple, tout, c'est toutes mes relations autour de moi qui vont en bénéficier.
Amen.
Amen. On est appelé à être transformé.
Amen.
Et c'est dans ce sens que l'on peut parler d'un mariage qui se bonifie avec le temps. Parallèlement au développement du fruit de l'esprit en moi, je développe une faculté à répondre aux besoins de l'autre. Et je suis authentique. Je suis la même personne. Je suis la même personne à la maison, dans mon couple. Je suis la même personne à l'église, devant les frères et sœurs. Il n'y a pas un qui est comme ça à la maison et puis un qui est comme ça à l'église. Non, c'est la même personne. Authentique, vrai. Amen. Corriger nos mauvaises habitudes. Un, comment on corrige nos mauvaises habitudes? D'abord, on accorde toute notre attention à notre conjoint quand il nous parle. On finit ce qu'on avait à faire. Alors, mesdames, laissez-le finir, je vous en prie, il faut qu'il finisse. C'est comme ça, et il n'est pas comme vous. Vous êtes capable de tout lâcher et puis de faire plusieurs choses à la fois et tout ça. Je vous le dis direct, il n'est pas capable. Ce n'est pas de la mauvaise volonté, ce n'est pas qu'il ne vous aime pas. Il n'est pas capable. Okay, donc, il finit ce qu'il a à faire, il range le petit dossier, il classe le dossier, c'est fermé, là il est bon, là il est disponible. Juste avant ça, ce n'était pas possible. Là, maintenant, il est là. Et vous, monsieur, que vous avez classé votre dossier, 100% avec la personne, 100% avec votre conjoint, 100%. Pas un petit œil sur la télé, pas un petit... Non, 100%. Accordez-lui toute votre attention. Ne l'interrompez pas. Permettez-lui de finir ce que l'autre est en train de dire. 17 secondes avant qu'on interrompe l'autre. Non, il a besoin de parler, c'est son tour. Écoutez-le. Patience et douceur. Écoutez-le. Ne l'interrompez pas. Et en plus, si c'est un introverti, il va prendre plus de temps que les autres. C'est-à-dire que lui, à chaque fois qu'il va sortir une phrase, entre la phrase et la prochaine phrase, il peut y avoir un temps mort. On parle pas, on le laisse, il n'a pas fini. On pose la main sur son épaule, sur sa main, on l'encourage. On dit merci mon chéri, je suis avec toi. On l'encourage. On dit pas, ça vient là, c'est pas la suite là. Sinon je parle. Notre conjoint se sent encouragé quand on lui accorde toute notre attention. Montrez-lui que vous êtes intéressé et à son écoute. Même si c'est quelque chose qui est loin de votre centre d'intérêt. Mais vous vous intéressez à ce centre d'intérêt parce que c'est votre épouse ou votre époux. Ne faites rien d'autre en même temps. Si votre conjoint est troublé, posez votre bras sur ses épaules ou prenez-le par la main. Ça va rassurer. Rien n'est plus valorisant pour la personne qui vous parle que de lui accorder exclusivement votre attention. C'est le meilleur encouragement que vous puissiez lui offrir et c'est une preuve d'amour. Et d'ailleurs, à l'inverse, de toute façon, si vous trichez, surtout si c'est la femme qui parle et que vous trichez, elle va le voir direct. Elle va le voir direct et elle va dire « Tu m'écoutes même pas. »« Mais si chérie, je suis là, je suis là. »« Tu m'écoutes pas. »« Si chérie, je suis là. » Vous allez être démasqué vite fait. Deuxièmement, essayez de vous mettre à la place de votre conjoint, de comprendre ce qu'il ressent. Ça, ça va être plus compliqué, mais essayez, par la grâce de Dieu. Écoutez-le. Écoutez-la. Cela va vous demander patience et compassion. Ne posez pas des tas de questions et forcez-vous de respecter les temps de silence où votre conjoint met de l'ordre dans ses pensées. Vous, ça débite à une vitesse de la mitraillette. Mais lui, là, avant de parler, il réfléchit. Donc laissez-le réfléchir. Prenez du temps. Il se peut que votre conjoint trouve difficile de s'exprimer, s'il n'en a pas l'habitude. Il est peut-être en train de découvrir ses sentiments au fur et à mesure qu'il vous parle. Troisièmement, s'assurer que vous avez bien compris les propos de votre conjoint. On revient à ce qu'on a dit tout à l'heure. Hein, les mauvaises habitudes, où on croit qu'on a compris alors qu'on n'a rien compris. Comment on fait pour s'assurer d'avoir bien compris les propos du conjoint? Après avoir écouté votre conjoint, redites-lui ce que vous venez d'entendre. Redites-lui, ça s'appelle la reverbalisation. Donc chérie, ce que tu m'as dit, c'est que, voilà, vous répétez, c'est que, et puis vous madame, S'il n'a pas bien compris, ne le traitez pas de tous les noms. Soyez un peu compatissant aussi avec lui. Et dites-lui, non mon chéri, j'ai pas tout à fait dit ça. Attends, je vais te réexpliquer. Ça sera mieux que, mais t'as rien compris, tu comprends rien. Douceur, ok, et amour. Amen. Et faire cela ne signifie pas que l'on est forcément d'accord avec l'autre. Ah, on n'est pas en train de passer la pommade là. D'accord ? On n'est pas forcément d'accord avec lui, on l'écoute. Cela nous assure que nous avons bien compris notre conjoint. Et enfin, demandez ce que l'autre attend de vous. C'est-à-dire, demandez-lui, décidez pas vous. Non, mais moi je vais faire ci, je vais faire ça pour toi. Est-ce que c'est ça qu'elle veut ? Demandez-lui ce qu'elle attend de vous. Amen ? Ça paraît simple comme ça. Mais c'est les clés de la vraie communication. Et croyez-moi, tout ça, ce n'est pas dans nos habitudes. Tout ça, ce n'est pas inné. Ça paraît simple là, parce que je suis devant vous et que c'est facile. Et quand vous êtes en situation, ça change tout. Plutôt que de vite prodiguer nos conseils ou de dire à notre conjoint ce qu'il devrait faire, c'est 100 fois plus efficace de réfléchir ensemble. Ensemble ! C'est le thème de l'année. Ensemble. À une solution. Ce qui veut dire que nous écoutons les idées de l'autre. Okay. On n'est pas forcément sûr d'avoir raison. En conclusion, certains ont du mal à écouter. Mais c'est seulement en reconnaissant nos mauvaises habitudes et en s'entraînant à écouter l'autre qu'on pourra se corriger. D'autres ont de la peine à s'exprimer, à exprimer leurs sentiments, surtout s'ils n'en ont pas l'habitude et qu'ils ont appris à réprimer leurs émotions depuis leur enfance. Mais il ne peut y avoir de communication en profondeur que si nous nous ouvrons à l'autre et que nous nous rendions vulnérables, transparents, pas de honte. On est ensemble et là, on est appelé à faire un. Si nous ne partageons pas nos émotions profondes, même quand c'est douloureux ou complexe et que nous essayons de les gérer seuls, inévitablement, il y a un fossé qui va se créer. Au lieu de créer de l'intimité, on va s'éloigner l'un de l'autre. Pour cela, il n'y a pas plus puissant que de prier l'un avec l'autre. C'est des habitudes, encore une fois, à changer. En réalité, très peu de couples prient ensemble. Les gens prient, chacun de leur côté, mais très peu de couples prient ensemble. Parce que pour tout ce qu'on a dit, pour tous les problèmes de communication, c'est fondamental de prier l'un avec l'autre, parce que c'est beaucoup plus puissant. Développer la communication, développer l'intimité en priant ensemble, à haute voix, sur une base régulière. La prière du couple, elle est fondamentale pour que le couple se soude, pour qu'on développe l'intimité. Priez ensemble, à haute voix, sur une base régulière. Ce n'est pas seulement prier pour remercier Dieu, c'est bien de le faire. Avant de s'endormir, les petites prières du soir, merci Seigneur pour tout ce que tu nous donnes, merci pour la famille, merci. Ok, c'est bien. Mais prier pour les besoins de l'autre, c'est encore plus puissant. C'est bien de le faire, mais il y a une grande différence entre prier pour quelqu'un, pour quelque chose et prier avec quelqu'un pour ses besoins respectifs. Prier pour quelqu'un, c'est puissant, mais prier avec quelqu'un pour ses besoins, c'est encore plus puissant. Amen. Prier avec son conjoint pour les besoins de chacun est le facteur le plus impactant pour développer l'intimité entre conjoint et fortifier le couple. Encore une fois, c'est un changement d'habitude. Une étude américaine a montré que le taux de divorce est en train de dépasser les 50%. Et le taux de divorce chez les chrétiens arrive à 40%. Vous voyez, on est en train de rattraper un petit peu ce qui se passe dans le monde. Mais regardez la suite. Mais, pour les couples qui prient ensemble, regardez bien, c'est spectaculaire. Le taux chute à 1%. C'est à peine croyable. De 40%, on passe à 1% parce que les couples prient ensemble. Et quand les couples prient ensemble, Dieu agit. Les couples qui prient ensemble restent ensemble. Le principal problème qui rend difficile, voire impossible la prière entre deux conjoints à haute voix, sur une base régulière, c'est soit l'orgueil, soit la honte. Beaucoup se sentent mal à l'aise à prier devant leur conjoint à haute voix et à exprimer leurs sentiments. Alors quelques conseils pour commencer. Des prières courtes et hésitantes sont mieux que des prières longues et éloquentes. Certains sont mal à l'aise avec la prière et le conjoint peut être beaucoup plus à l'aise. Mais ce n'est pas grave, prends ta place. Même si tu as du mal à prier, c'est le cœur qui compte. Tu n'as pas grand-chose à dire, c'est pas grave. Dis ce que tu as à dire avec ton cœur. Jésus, je t'aime. Amen.
Amen.
Et l'autre, et alors, c'est mieux qu'une prière éloquente et qui ne viendrait pas du cœur. Et les deux peuvent venir du cœur. Prier avec quelqu'un, ce n'est pas lui lancer des messages. Là aussi, beaucoup de gens ont arrêté de prier avec l'autre parce que l'autre, à chaque fois, il se servait de la prière. Seigneur, dis à Georges, Seigneur, qu'il m'aide un peu plus. Dis à Georges qu'il m'aide un peu plus dans les tâches ménagères, Seigneur. Je me sens seul. Seigneur, fais passer le message. Demandez à l'autre de prier pour des choses spécifiques. Si ma femme me demande pourquoi je veux qu'elle prie, je vais devoir ouvrir mon cœur. Et c'est dans cette relation de prière qu'on va pouvoir développer notre intimité. Prier pour des choses spécifiques, des choses qui sont dans notre cœur et peut-être qu'on a du mal à exprimer. Mais là, c'est l'occasion de dire, chérie, ben, je te demande de prier avec moi pour tel sujet, telle chose qui me concerne ou qui nous concerne. Mais on va ouvrir notre cœur. Et c'est là qu'on va pouvoir créer vraiment de l'intimité. Et enfin, la prière est toujours tridirectionnelle. On s'adresse à notre conjoint, mais on s'adresse aussi à Dieu en toute transparence. Le Dieu du miracle est toujours avec nous quand nous prions ensemble. Nous sommes appelés à changer nos mauvaises habitudes afin de mieux communiquer avec notre conjoint. La communication va vous permettre de développer votre intimité et ainsi de permettre à votre couple de prendre le chemin de l'épanouissement. C'est le chemin qui mène à l'épanouissement du couple. Ce n'est pas le chemin qui mène à la cohabitation. C'est le chemin qui mène à ce que Dieu a voulu toujours qu'on soit une seule chair. Courage, prenez des bonnes résolutions ce soir. Décidez avec votre conjoint de continuer sur une nouvelle base, les bases bibliques. Changez, transformez, nouvelles habitudes. Dieu est avec toi par la puissance de celui qui agit en toi. Tout est possible à celui qui croit. Tout est possible à celui qui veut. Amen. On peut baisser nos têtes et prier et remercier le Seigneur. Seigneur, mon Dieu Tout-Puissant, nous voulons te dire merci, Seigneur. Merci parce que tu veux que tes enfants soient heureux dans le mariage. Tu veux que nous ayons des mariages épanouis. Et tu nous donnes ta parole pour cela, Seigneur. Tu nous fais comprendre ce qui doit changer en nous. Tu nous fais comprendre que nous sommes appelés à être disciples et le disciple se donne à son mariage. Seigneur, aide-nous à comprendre tous ces changements qui doivent prendre place, toutes ces mauvaises habitudes qui doivent changer. Et quel que soit le nombre d'années que nous avons dans notre couple, Seigneur, donne-moi la volonté, donne-nous la volonté, donne-nous le courage. Et toi, avec la puissance de ton esprit, tu es capable de faire des miracles dans nos vies. Tu es capable de faire des miracles dans nos couples. Alors Seigneur, je prie ce soir pour tous les couples, pour mon couple aussi, Seigneur. Je prie pour que tu mettes ta main, Seigneur. Et que là, nous puissions améliorer notre communication, que nous puissions rentrer dans cette intimité, que nous ne soyons plus des étrangers sous le même toit, que nous ne soyons pas des colocataires sous le même toit, mais qu'au contraire, nous puissions repartir sur des bonnes bases, nous puissions partir sur des bases éclairées, sur les fondements de Jésus, sur les fondements du Christ, sur les fondements du mariage, et que nous suivions ton exemple, Seigneur, de la même manière que tu t'es donné à l'Église. Aide-nous à nous donner à notre conjoint. Seigneur, j'ai prié dans le nom de Jésus. Amen.
Amen.